Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Donc Nicolas, qui a 40 ans, trouve que ce congé paternité qui passe à 28 jours, il était de 14, n'a aucun intérêt. Pourquoi ça?
Je vais étayer mes propos quand même, parce que ça fait un peu brut de dire ça.
Non, croyez-vous. Enfin,
bon, je suis un homme d'aujourd'hui, hein, je fais le repassage et tout, il n'y a pas de problème. Mais en fait, mon propos, c'est de dire aucun intérêt. D'abord, chacun fait ce qu'il veut, qu'on soit bien d'accord. La semaine obligatoire, ça, c'est pas normal. Il faut savoir que la maman est déjà de fait en congé maternité, donc quand elle a accouché, ce qui est normal.
Ça ne nous a pas. Ah bah oui, ça. Vous ne voulez pas quand même que la maman qui a accouché reprenne le travail le lendemain, rassurez-moi.
Heureusement que non.
Bon.
Et parce que c'est quand même une sacrée épreuve pour les mamans. Donc, quel intérêt de se retrouver à deux à la maison?
Vous dites donc. Vous êtes drôle, Nicolas. D'abord. Précisément, vous venez de dire que votre femme ou votre compagne est fatiguée. Donc c'est peut-être un moment simplement de l'aider psychologiquement, parce que c'est un temps qui n'est pas facile, paraît-il. Hein. Un homme ne sait pas ce que c'est qu'accoucher, mais il y a une forme de baby blues qui peut se mettre en place. Et de l'aider, j'ai envie de dire, matériellement. Donc ça, c'est factuel.
Justement.
Donc l'homme qui est présent peut peut-être assurer des tâches et laisser reposer son épouse.
Parce que le fait d'aller au travail, ça empêche d'assumer les tâches.
Ah bah oui, par définition, si vous êtes là, pas là, présent pendant 8 heures...
J'ai eu deux filles. On va pas se mentir déjà. La première des choses, c'est que dans 90% des cas, c'est la maman qui s'occupe de l'enfant. Dans 90% des cas, quand elle sort de la maternité. Clairement. Non, mais on va pas se mentir.
Non, mais dites pas. Il y a Greg Caradoni qui est derrière la vitre, qui est un jeune papa, qui me dit à l'oreillette, mais c'est pas vrai. Donc, j'ai pas de chiffres à vous donner. Je pense que c'est générationnel. Je pense que, effectivement, au-dessus de 50 ans, vous avez raison. Mais les jeunes pères ne sont pas comme ça, manifestement.
Non, mais j'ai eu deux filles. Et j'ai eu la chance d'accoucher ma première fille. Et j'ai eu deux filles. Ça veut dire, ma femme était en congé maternité. Donc, la journée, effectivement, je suis resté au travail. Mais bon, à l'époque, c'était 15 jours. Et pour autant, je m'occupais d'elle, je m'occupais des tâches ménagères, je m'occupais d'aller faire les cours, je m'occupais de tout ça. Et ça m'empêchait pas de travailler. Et chacun est libre, à la limite, de prendre ses 28 jours. Rendre obligatoire, je trouve ça pas terrible.
Non, il n'y a qu'une semaine qui est obligatoire.
Oui, mais c'est pas la quantité du temps qu'on passe avec ses enfants qui est importante, c'est la qualité du temps qu'on passe.
Oui, ça, faut le dire vite. Je pense quand même que la quantité, c'est important, croyez-moi. C'est important, parce que si vous n'allez... Vous savez, des enfants qui se font du sport le samedi, le dimanche, jamais leurs parents, parfois, ne sont allés les voir au foot, au basket, à l'équitation, etc. Et ils en parlent quand ils ont 20-25 ans, et croyez-moi, même si leurs parents avaient été là, ils avaient fait autre chose pendant qu'ils jouaient au foot, au moins ils étaient présents.
Ça fait 33 ans que je joue au foot, ma mère n'est jamais venue voir jouer un match.
Donc, c'est pas vrai. Ben vous voyez, vous en parlez. Ben en fait, vous reproduisez ce que vous avez vécu. Votre mère s'occupait pas tellement de vous et vous faites pareil.
Ah non, absolument pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui est présent pour ses enfants.
Mais je blague.
Et puis à côté de ça, c'est surtout, il y a une question pécuniaire aussi, Pascal.
Ben là, les 28 jours, c'est payé par l'entreprise, attendez.
Non, c'est pas payé par l'entreprise, c'est payé par la Sécu.
Oui, c'est payé, vous avez raison. Pardon, c'est payé par la société, c'est ce que je voulais dire. Vous avez raison.
Ma compagne, quand elle était en congé maternité, elle touchait 400 euros par mois. Elle perdait 400 euros de salaire. Donc, 400 euros de salaire, si vous, sur un couple qui se met tous les deux en congé, ça fait perdre en moyenne 800 euros de salaire.
Nathalie vous écoute. Nathalie, elle vous écoute. Elle est assistante maternelle. Nathalie, répondez à Nicolas. Bonjour, oui. Nathalie.
Oui, bonjour, Pascal. Bonjour, Nicolas.
Bonjour, Nathalie.
Alors, déjà, en tant que femme, pour le coup, je suis assez d'accord avec ce que dit quand même Nicolas. Que majoritairement, oui, c'est vrai qu'à la naissance, au nouveau-né, c'est majoritairement la maman qui s'en occupe. Ceci dit, moi qui suis assistante maternelle, quand je vois des naissances de mes fratries, alors pour un premier qu'on me donne en garde, j'ai pas pu me rendre compte, mais là, j'ai un exemple en ce moment. Je vois bien que déjà les 15 jours qui existaient, les papas ne les prennent pas forcément de suite. Donc l'argument des spécialistes de la naissance qui disent que la présence du papa, c'est bien de l'allonger au moment même de la naissance, c'est pas vrai, parce que souvent les papas prenaient les 15 jours un mois, deux mois, trois mois après. Moi, par exemple, c'est le cas d'un papa en ce moment qui est en train de rallonger ses CP de fin août avec son congé paternité. Donc, il n'a pas utilisé ses 14 jours pour profiter de la naissance de l'enfant le 11 mai, d'une part. D'accord. Ensuite, je me pose la question de la Alors, en tant que femme, je me dis, ça y est, les hommes vont connaître quelque chose. C'est quel va être le point de vue des employeurs? Et vont-ils être tous très souples face à leur employé qui va prendre ses 28 jours? Et ils vont connaître ce problème qu'on a, nous, les femmes, avec la maternité. Parce que moi, je ne suis pas sûre que ça va être facile pour tous les hommes de faire valoir cette nouvelle loi. Je ne suis pas sûre que tous les employeurs vont être d'accord avec ça.
Oui, il est possible qu'effectivement... Alors, c'est toujours pareil, dans les très grandes entreprises... comme RTL, comme M6, etc. Il n'y a jamais de souci.
Mais dans la petite PME... C'est principalement un métier d'homme. Je vous assure que s'ils vont avoir sur leur chantier, les ouvriers de chantier, les chefs de chantier,
si
tout le monde y va, c'est 28 jours,
et vous avez
raison. C'est pas du sexisme du couteau que je dis.
Mais vous avez raison.
Mais je me demande si c'est un droit, mais vont-ils pouvoir l'appliquer? Et ils vont connaître quelque part, ça va être l'égalité homme-femme, eux aussi ils vont connaître cette un peu discrimination-là, est-ce qu'on va pouvoir la prendre? C'est pas sûr. Et par contre, Nicolas a raison, effectivement, majoritairement, c'est la maman qui s'occupe du nouveau-né. À la naissance du deuxième, le papa, il est souvent là finalement pour aider, aux tâches ménagères et au deuxième, à l'aîné, effectivement, pour soulager la maman. Mais on peut ne pas être en congé parental et assumer les tâches ménagères et être un bon papa.
La règle, comme toujours, c'est qu'il n'y a pas de règle. On va marquer une première pause, mais là où Nathalie a raison, c'est que, effectivement, dans une petite PME de 10 personnes, si vous avez deux jeunes parents qui, en même temps, prennent 28 jours, qui ont eu des enfants, j'imagine que le patron, il doit se dire, attendez, vous êtes gentil, mais on fait tourner la boîte comment? Et en revanche, dans les grandes entreprises comme la nôtre, comme RTL, M6, je le disais, c'est toujours plus facile. D'où l'avantage, parfois, et même souvent, d'être dans une très grande entreprise. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
Nous sommes sur le congé de paternité. On va vous faire une petite playlist spéciale papa. Et Laurent, tu sais qu'il y a un jeune papa, vous avez quel âge à votre enfant ?
Un an et demi, Sophia, un an et demi. Et c'est vrai que j'avais mis 3 mois pour prendre mon congé paternité. J'étais parti du principe que la maman aurait besoin de moi plusieurs semaines après.
Et vous avez sans doute bien fait. Et vous avez le sentiment d'être plus proche, par exemple, de votre bébé que vos parents l'étaient de vous ? D'en faire plus, d'aider plus votre épouse, si tant est que le mot aide soit adapté.
Je pense que qu'on prenne le congé paternité immédiatement ou quelques semaines après, on peut toujours être aussi proche de la maman et participer aux tâches, changer la couche, donner le biberon à bébé. Donc honnêtement,
le biberon imbibé. Si vous donnez le biberon imbibé, évidemment, c'est ennuyeux.
On est que jeudi. Si,
si, si
mal,
cet enfant déjà sombre dans un alcoolisme à 15 jours, c'est ennuyeux.
Voilà, on est comme ça chez les
enfants. Biberon imbibé.
Bon. Allez, parlons de ce congé paternité de 28 jours, dont une semaine obligatoire qui entre en vigueur à partir d'aujourd'hui. Vous l'avez dit, Pascal, est-ce une avancée suffisante si vous êtes bientôt papa? Allez-vous prendre tout ce congé? Jusqu'à présent, nous avions 11 jours en plus des 3 jours de naissance. 7 pères sur 10 seulement prenaient ce congé. Alors pour quelle raison? L'économiste Hélène Périvier répondait à cette question dans On défait le monde avec Cyprien Signy.
Les hommes peuvent travailler dans des secteurs où il y a beaucoup d'hommes. Donc cette ségrégation de l'emploi, elle fait que c'est pas toujours facile pour un père de prendre un congé quand autour de lui, aucun ne l'ont pris, ou certains n'ont pas d'enfants, ou certains sont plus âgés. Et puis il faut pas oublier qu'il peut aussi y avoir une pression de la hiérarchie qui n'incite pas les pères à prendre ce congé, parce que c'est un signal que le père envoie qui fait qu'il n'est pas investi dans sa carrière.
Une autre raison explique aussi que certains papas ne prenaient pas jusque-là ce congé.
C'est aussi une perte de revenus, puisque le congé est indemnisé comme le congé maternité, mais à hauteur d'un certain plafond. Et donc pour certains, ça induit une perte de revenus qui n'est pas forcément bienvenue au moment où on a un enfant.
Alors un congé paternité de 28 jours, dont une semaine obligatoire, qu'en pensez-vous? Eh bien pour Gilbert, sur la page Facebook de l'émission, 28 jours, c'est peut-être un peu exagéré. Les anciens en clair au boulot, les jeunes en congé, c'est très bien, applaudit au contraire Ignac. Pour une fois, une mesure va dans le bon sens. Jean-Luc est assez gêné par cette semaine obligatoire qu'on laisse les Français juger eux-mêmes. On est infantilisé, dénonce Thierry. Et David, tiens, va être papa dans 4 mois. Et oui, ces 28 jours, c'est une bonne nouvelle pour être auprès de ma femme. Passer du temps avec mon enfant, ce sont des moments tellement précieux. La vie de famille avant tout.
Exactement. En tout cas, on peut l'imaginer comme ça. Paul est avec nous. Paul qui est encore d'une autre génération. C'est pour ça que ces sujets-là sont souvent comme d'autres, mais souvent générationnels, bien sûr. Paul, vous avez 70 ans.
Oui, exact.
Bon, quand vos enfants sont nés, comment ça s'est passé ?
Ben, j'ai pas eu de congé de paternité, j'ai été au travail.
Mais ça n'existait pas. C'est en 2002, congé paternité en France.
Voilà, ça n'existait pas. Et puis bon, ça m'a pas manqué. J'ai assisté leur maman à chaque fois qu'il y a eu l'accouchement. Je me suis libéré une journée. Mais par contre, je trouve que c'est... Je vois pas... D'abord, ça coûte énormément d'argent. Parce que sans compter que l'employé qui travaille, s'il prend un congé de paternité, il faut le remplacer quand même. Donc c'est tout un système, quoi. Moi, honnêtement, c'est pas de mon époque, donc j'aurais pas pris un congé de paternité, honnêtement. J'aurais continué à travailler.
J'entends bien, mais c'est-à-dire que si vous aviez 20 ans, vous penseriez sans doute différemment, puisque vous auriez grandi dans une société différente qui vous aurait influencé de manière différente, par définition.
Oui.
Mais quel regard vous portez aujourd'hui sur cette société qui change ? Est-ce que c'est bien ? C'est ça qui nous importe.
Mais je ne pense pas que ça soit bien, parce que ça coûte énormément. Et plus ça coûte, et plus nos jeunes vont subir les conséquences de ce que font les élus actuellement. C'est pour ça que je ne comprends pas trop à chaque fois de donner de l'assistanat, parce que c'est assisté. Vous prenez un congé de paternité...
Mais est-ce que vous pensez... Alors j'entends votre argument financier, oui, économique, mais est-ce que vous pensez que le lien sera plus fort avec l'enfant, que le partage avec la maman permettra de pourquoi pas avoir un couple plus solide, qu'une meilleure harmonie, des éléments qu'on peut imaginer, que la femme se sentira qu'elle n'est pas seule.
Oui, qu'elle sente qu'elle n'est pas seule. Oui, je veux bien le recevoir. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que mes enfants ont été élevés, quand je vois déjà mon fils, bon, parce que j'en ai un qui a quand même 44 ans, qui est avec sa compagne, j'ai une petite fille, ben c'est pas du tout pareil. La petite fille, si vous voulez, il a pas, comment dirais-je ça, il est resté avec sa fille et tout, mais on n'a pas les mêmes rapports que j'ai eu avec lui quand il était petit et tout. Moi, je rentrais, je le voyais, ça me faisait... Alors, rester constamment avec l'enfant, constamment, pendant 28 jours, 30 jours et tout, je sais pas, moi, c'est un problème...
Non, mais prolongez ce que vous dites, parce que ça m'intéresse. Quand vous dites, vous n'avez pas, avec votre fils, les mêmes rapports qu'il a avec sa fille.
Voilà.
C'est-à-dire que les rapports qu'il a avec sa fille, vous les trouvez plus complices, plus intimes, plus intenses ?
Non, justement, beaucoup moins. Parce que moi, quand je venais, il y avait une complicité qui se créait. Je le voyais moins souvent, donc quand j'étais plus présent pour lui. Alors que quand lui est constamment présent pour sa fille, et ainsi que sa mère, il a moins de complicité. Il a moins de complicité.
Bah, c'est paradoxal, ça, comment ça se fait.
Ouais. Mais parce que quand vous veniez, quand vous étiez absent, par exemple, la semaine, vous travaillez tout ça, quand vous rentrez, ou bien le soir, quand vous rentrez, vous avez un plaisir d'être avec vos enfants, d'être... Alors que quand vous êtes constamment, vous avez la possibilité d'être constamment avec eux, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Et ça, c'est bon. Mais c'est une époque aussi. Hein.
Mais bien sûr, c'est une époque. Et je disais tout à l'heure, parce que je regardais un peu les congés paternité dans le monde entier. Par exemple, aux États-Unis, il n'y a ni congé paternité, ni congé maternité. Quand j'ai appris ça, pour tout dire, j'ai appris ça ce matin en travaillant un peu le sujet. C'est incroyable quand même. Et la loi garantit seulement à une femme ou à un homme de s'absenter pour des raisons familiales jusqu'à 12 semaines non payées et de retrouver son poste à son retour.
Exact.
La loi,
exact,
c'est vous avez le droit de partir 12 semaines et vous aurez votre poste en revenant. C'est ça la loi. Mais c'est non payé. C'est formidable quand même. Mais congé paternité et congé maternité, ça n'existe pas aux États-Unis.
Pascal, je le sais parce que j'ai une cousine qui habite à Mesa en Arizona et qui a eu ses enfants. Elle s'est mariée avec un Américain. Elle a eu deux filles. Et c'est vrai qu'elle n'a jamais eu de congé de maternité.
Ah bah, non, mais c'est à l'ancienne, quoi. C'est les shérifs. Et les femmes accouchent dans les bois, toutes seules, parfois.
Ouais.
Non, mais c'est formidable, la société américaine. Bon, bah, écoutez, merci, monsieur Paul.
Voilà.
Merci,
prie, merci Pascal,
beaucoup.
C'est plaisir à vous entendre.
Mais non, mais c'est gentil. Greg, vous qui êtes un jeune père également, le petit Pio, à quel âge ?
Il a 2 ans et demi maintenant.
Mais vous, vous êtes un père vraiment très investi.
Moi, je suis un peu un papa. Alors, je ne sais pas si c'est très investi. En tout cas, je prends ma mission de papa très à cœur et chaque jour, je suis satisfait de cette mission, si vous voulez. Je prends beaucoup de plaisir.
Bien sûr. Et vous, voilà, il y a un partage équitable dans votre couple.
Exactement. Et alors, pour parler du congé paternité, notamment. Typiquement, ma femme a été alitée quelques jours après l'accouchement, donc là, techniquement, c'était bien que je sois présent pour pouvoir aussi... voyez, mais après, évidemment, ça dépend des couples, des personnes, des situations.
Mais vous savez faire à manger, par exemple, aux enfants ?
Bien sûr.
Vous savez faire des pâtes ?
Pas seulement, non.
Des nuggets.
Non, pas du tout.
Non, mais je ne sais pas.
Des brocolis, des haricots verts, vous mangez peu... c'est très simple de faire des brocolis. Non, mais pour les enfants, en plus, si vous voulez, vous les faites bouillir. Enfin, après,
vos enfants.
Ah, oui, exactement. J'en ai 15, donc.
Ah, c'est pas recommandé. Mais bon, donc les brocolis.
Oui, des courgettes, des carottes, que voulez-vous.
Vous faites des carottes, des courgettes.
Mais bien sûr.
Vous êtes un vrai cuisinier.
Arrêtez, c'est très simple à faire.
Ah bah non, c'est pas facile à faire. Il est 13h19, on attend le prochain disque que vous avez choisi pour cette playlist spéciale papa.
Qui vous sera dédié.
Congé de paternité. Et alors, vous savez que le max, visiblement en Europe, c'est les pères ont le droit à 16 semaines payées intégralement en Espagne. Et alors, en dehors de l'Europe, je crois que le Canada, c'est 1 an. Au Canada, un employé peut avoir droit à un congé parental d'au plus... de 63 semaines. Ce congé doit être pris au cours des 78 semaines suivant la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant est confié aux soins à la garde de l'employé. Toutefois, si les parents prennent un congé parental pour leur nouveau-né ou leur enfant adopté, ils doivent s'assurer que la durée maximale de l'ensemble de leurs congés parentaux ne dépasse pas 71 semaines. Je ne sais pas si vous avez tout compris, mais c'est la loi canadienne.
Ça aurait été un problème parce qu'en 1 an, vous m'auriez oublié. Si j'avais disparu un an.
Je ne vous oublierai jamais, mais je ne souhaite pas que vous partiez vivre au Canada. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Dans le coup, papa. Alors Adrien, ça va être intéressant parce que c'est un jeune papa. Bonjour Adrien.
Bonjour Pascal.
Vous êtes commercial.
Exactement.
Alors ça, c'est intéressant. Vous allez avoir votre premier enfant.
Oui.
Dans combien de temps ?
Début décembre.
Début décembre. Voilà. Donc, votre épouse, pour le moment, n'est pas encore arrêtée ?
Non, bien sûr. Et on espère qu'elle va pouvoir aller jusqu'au bout, parce que c'est important de travailler quand même aussi.
Je suis d'accord. Est-ce que vous êtes satisfait des 28 jours ? Est-ce que vous allez les prendre ?
Alors oui, je suis très satisfait. J'espère que je vais pouvoir les prendre à un moment donné. Ça dépendra aussi de l'entreprise, j'imagine, un peu de la réaction qu'elle aura. Mais non, je suis très content parce que je sais très bien qu'un enfant, quand c'est en bas âge comme ça, on le nourrit, on le change. C'est pas forcément les moments les plus passionnants, mais j'imagine que c'est surtout un partage. Aujourd'hui, je vis beaucoup la grossesse avec ma compagne, énormément. Vraiment, je la partage avec elle, même si je le porte pas. Et je pense que c'est très important aujourd'hui. Moi, j'ai eu un père, je suis enfant divorcé, qui a été très très présent, au même titre que ma mère. Il a tendance à dire que c'est un père goy avec une âme de mère juive, et c'est ce que j'aurais envie d'être. Voilà, même si c'est une petite fille, même si les relations vont être différentes.
Pourquoi vous dites même si c'est une petite fille ? C'est drôle ce que vous dites.
Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment ça fonctionne une petite fille, donc je vais découvrir.
On ne sait jamais, c'est le genre de choses, croyez-moi. On ne sait jamais comment fonctionne. Déjà l'autre, c'est compliqué, mais comment fonctionne une petite fille, une grande fille, une très grande fille et une très vieille fille, croyez-moi, on ne sait jamais comment ça fonctionne.
Voilà, non, mais vous avez raison. Mais vraiment, pour moi, c'est un moment de partage, surtout avec ma compagne et avec cet enfant.
Et c'est quoi un moment de partage ? Alors, quand vous dites « je partage la grossesse », ça veut dire quoi ?
Je lui demande régulièrement comment elle va, je fais attention à elle. Je suis souvent près d'elle pour lui toucher le ventre, même assez naturellement. Je fais beaucoup plus attention à elle, peut-être, même si c'était déjà le cas avant. Mais je fais beaucoup plus attention. Vous savez, moi, j'ai toujours eu cette volonté d'avoir une famille. C'est peut-être par rapport à ma propre expérience personnelle. Mais d'avoir une famille vraiment très unie. Ensemble, et on partage tout avec ma compagne, hein. Bon, bien sûr, on fait des choses chacun de notre côté, mais on est un couple assez fusionnel, malgré le fait que ça fait très longtemps qu'on soit ensemble.
Vous êtes ensemble depuis combien de temps ?
Depuis que j'ai 17 ans, donc
j'ai
27 ans.
Mais c'est super, parce que alors ça, c'est une belle histoire, parce que vous êtes rencontrés au sortir de l'adolescence.
Exactement.
Et 10 ans plus tard, vous faites un bébé, c'est magnifique comme aventure.
En fait, mon père a déménagé dans le village où elle habitait, en Essonne. Et je l'ai rencontré quelques temps après. Et en fait, on est sortis ensemble quelques mois après. Et on s'est jamais lâché. On a emménagé il y a 5 ans ensemble. Là, on a acheté une maison. On a décidé de faire un enfant. Malgré le fait qu'elle, elle a aussi une carrière professionnelle. Hein. Moi, j'ai une mère qui a été très présente dans son travail. Mais elle a aussi été très présente avec moi. Je pense qu'aujourd'hui, on peut allier les deux. C'est juste une question de volonté, hein, à un moment donné. Et les
non,
pères,
mais là vous avez raison. Elle fait quoi, votre vous êtes marié ou pas?
Non, pas encore. Non. On fait les choses un peu dans le désordre.
Non, mais non. Il n'y a pas d'ordre ou de bon ordre. Elle est dans quel domaine?
Elle est dans le bâtiment. Elle est technico-commerciale dans le bâtiment.
Ouais. Donc, vous êtes tous les deux. Alors, bon, vous êtes plutôt deux personnes qui réussissent plutôt bien dans l'entame de leur vie, disons-le. Vous êtes commercial, vous avez tous
départ,
les deux. Comment?
C'était pas gagné au départ. On
non, mais vous avez. Tous les deux, vous avez du job, vous gagnez bien votre vie, sans doute. Donc, c'est plutôt une belle période pour vous.
Moi, c'est magnifique.
Vous savez si c'est un garçon ou une fille?
C'est une petite fille.
Et vous avez déjà imaginé le prénom ou...
J'ai imaginé quelques prénoms, mais alors là, si je le dis à la radio et que ma compagne n'y est pas d'accord, ça va, je vais me faire engueuler.
Mais non, mais alors, donnez-nous des pistes, parce que c'est le jeu des prénoms.
J'aime bien Elena,
oui.
Aline.
Aline.
Voilà, Gabrielle pour une fille aussi. J'ai prénom Maëlle, c'est des prénoms que j'aime beaucoup.
Bah, c'est vrai, on peut demander aux auditeurs peut-être un vote entre Anna, Elena. Aline, Gabriel, j'avoue que tous ces prénoms sont. Je ne sais pas ce qu'en pense Greg, s'il a une.
Moi, alors, je choisirais Anna.
Anna, c'est
Anna.
Joli.
Parce que c'est très court.
C'est très joli, ouais.
Voilà. Il y a une
aussi,
chanson de
voilà.
Goldman, elle s'appelait Anna. Elle s'appelait Anna, elle n'avait pas 10 ans. Et puis il y a une chanson également, Aline, et j'ai crié. Donc il y a une chanson pour tous les prénoms et féminins.
Je chanterai du coup.
Bon, bah écoutez, Adrien, ce qui serait rigolo, c'est que vous nous appeliez vous savez, en décembre, ça serait marrant que vous nous...
Ah avec grand plaisir, bon. Parce que moi, je suis
dernière chose,
je vous écoute tous les matins, tous les soirs, donc vraiment...
Dernière chose quand même que je voulais vous demander, vous êtes combien dans votre société?
Dans ma société, où c'est une société nombreuse aujourd'hui, mais je vais changer de job, là, il y a quelques mois, j'ai déjà ma promesse d'embauche, donc la société sera un peu plus petite, mais aujourd'hui, je travaille pour un gros groupe.
Mais est-ce que vous allez pouvoir partir 28 jours? C'était ça ma question.
Bah, écoutez, j'espère, si c'est pas d'affilée, j'espère en tout cas les prendre, vous savez, en décalé, peut-être 15 jours.
Ah, on a le droit de les prendre pendant combien de temps on a le droit de les prendre?
Je ne sais pas, mais ça serait bien.
Ah oui, bah écoutez, voilà. C'est un beau moment que vous allez vivre, Adrien. Donc, d'abord, vous avez 26 ans, donc c'est formidable d'avoir un enfant à 26 ans. C'est l'âge pour avoir des enfants, évidemment. Et puis, longue vie à cette petite fille qui va naître, et puis belle vie surtout. On va marquer une pause et peut-être en chanson, cher Greg. C'est bien d'avoir un nouveau papa comme ça, c'est bien.
Mais oui.
Merci beaucoup.
Ah oui,
vous allez régaler, Adrien.
Mais non, mais votre joie de vivre, votre enthousiasme et votre énergie qu'on perçoit dans votre voix était un plaisir à entendre.
Ah, c'est très gentil. En tout cas, merci à vous, Pascal Praud, parce que comme je dis, je vous écoute tous les matins et tous les soirs et tous les midis. Donc, merci à vous.
Il reste du temps pour bosser quand même un peu.
Oui,
elle s'appelle comment votre compagne, son prénom?
Julie.
C'est joli aussi, Julie, comme prénom. Voilà. Julie Adrien. Ouais. Voilà deux jolis prénoms. Greg,
vous disiez, elle s'appelait Anna en parlant de Jean-Jacques Goldman. Alors, on a un spécialiste de Jean-Jacques Goldman ici qui s'appelle Thomas Soto.
Oui.
Qui s'insurge un peu.
Pascal Pro, c'est la cellule de contrôle.
Elle s'appelait Sarah.
Elle s'appelait Sarah, évidemment.
Évidemment qu'elle
avait
pas
8 ans. Sa vie, c'était douceur, rêve et nuage blanc, mais d'autres gens avaient décidé autrement.
Ah, mais vous pouvez le chanter, Thomas?
Non.
Mais si, un petit peu. Thomas Soto est derrière la vitre, je le dis.
Oui, c'est là que je suis le mieux, derrière la vitre. Allez, travaillez un peu, Pro.
Vous me parlez comme mon professeur, mais elle s'appelait Sarah, bien sûr. Bon, alors, est-ce qu'on avait, pas une petite chanson, non, pour la pub, la pause?
Elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas 8 ans. Sa vie, c'était douceur, rêve et nuage blanc. Mais d'autres gens en avaient décidé autrement. Je l'ai prise un peu trop grave. Hein.
Non, vous êtes. De toute façon, vous êtes naturellement un peu grave, mais c'était bien, quand même, Thomas, ce que vous avez fait. Vous savez de quelle année date cette chanson?
De quelle année?
Oui.
Ça doit être l'album non homologué, 81 par là, non?
Ouais, je pense que c'est 83,
je dirais.
Oui, peut-être, moi je me souviens très bien. On a des souvenirs, des flashs.
Essaye pas de me piéger sur Goldman Pro, t'as compris? Okay. Allez, bisous.
La pause.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop.
On aura quand même appris dans cette première demi-heure que Greg Caradoni fait bouillir son fils Pio et que vous, Laurent Tessier, vous donnez des biberons imbibés à votre fille Sophia.
Vous
avez
mal compris.
Non, mais c'est bien. Je vous félicite. Oui. Vous êtes des
pères. Vous détournez nos petits, nos petits aléas. En revanche, nous, on aura appris que vous ne savez pas faire bouillir des courgettes.
Non, je ne sais, je sais pas le temps de cuisson d'une courgette. Ça, je peux pas vous. Je mentirais.
Et les pâtes. Tout dépend comment vous les aimez.
Je suis nul en cuisine, ne me branchez pas là-dessus, je sais pas faire la cuisine. Voilà.
Allez,
je le regrette d'ailleurs.
Vous pouvez nous appeler sur d'autres sujets au standard. Faut-il interdire les drapeaux étrangers lors des mariages civils en mairie ? Vous avez peut-être entendu ce matin cet échange tendu à l'Assemblée nationale hier soir. Écoutez la députée Les Républicains du Doubs, Annie Genevard, à l'origine d'un amendement.
Certaines familles, au moment des mariages, parfois dans la salle des mariages, brandissent des drapeaux étrangers ou manifestent par des danses, des spectacles, les traditions qui sont les leurs. Et chaque fois que nous avons affaire à ces situations, ça suscite énormément d'émoi dans la population.
La réponse du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti.
Je suis un peu inquiet, madame la députée Genevard. Je vous rappelle que le sirtaki est grec, la valse autrichienne, la sardane catalane, le flamenco espagnol, la salsa cubaine et le smurf français. Moi, madame la députée, quand je vois des gens danser, ça me rend heureux.
Alors, qu'en pensez-vous ? Faut-il interdire les drapeaux étrangers lors des mariages civils ? Ces danses traditionnelles vous dérangent-elles ? Voir les gens danser vous rend-il heureux, comme Éric Dupond-Moretti ? Il n'y a pas besoin d'interdiction pour Lise.
Oui, mais il répond à côté, Dupond-Moretti. C'est très bien, il feint de savoir que parfois, il y a trouble à l'ordre public. Et qu'effectivement, quand tu bloques une circulation, quand tu, quand ton mariage devient celui aussi des autres, j'ai envie de dire, où les uns et les autres sont mêlés à cela, alors qu'ils n'ont rien demandé dans l'espace public, ça pose un souci.
Bah vous rejoignez parfaitement l'avis de Laurent. Interdisez plutôt le blocage des routes lors des mariages. Et le problème pour d'hommes est que certains ne savent plus faire la fête. Et souvent, cela tourne à la provocation avec les drapeaux.
Il y a un poil de démagogie quand il dit, quand on voit des gens danser, on est tous heureux. Donc, bien évidemment. Mais c'est une nouvelle fois, c'est intéressant, parce que c'est nier un problème qui existe. Il y a un problème qui existe, effectivement, lors de certains mariages. Bah, faut mieux en parler, forcément, pour trouver un code de bonne conduite. On va en parler dans une seconde avec David, mais on termine juste avec Laurent sur le congé paternité. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour Pascal.
Est-ce que vous êtes favorable à aller jusqu'à 28 jours ? Est-ce que c'est une bonne chose ?
Bah, je pense que c'est une bonne chose. Hein. Moi, c'est vrai que j'en ai pas profité. Bon, j'ai deux enfants de 13 et 10 ans. Bon, j'ai eu le minimum, hein, je crois que c'est 15 jours, hein, c'est ça, 14 jours. Mais je trouve que c'est une bonne, je crois que c'est une bonne chose. Comme on revenait tout à l'heure sur les précédents interlocuteurs, il y a eu pas mal de choses qui ont complété, en fin de compte, le fait d'aider la maman. Parce que bon, c'est vrai que il y a quand même 9 mois à supporter, entre parenthèses, la naissance. Et puis c'est vrai que bon, les tâches ménagères, surtout, on sait que la maman est fatiguée. Faire le quotidien, je pense que 28 jours, c'est pas de trop, quoi.
J'entends effectivement que ça peut être une bonne chose et ça sera un peu la conclusion de notre séquence depuis 13 heures. C'est globalement, effectivement, les uns et les autres ont trouvé que c'était plutôt quelque chose qui allait dans le sens de la société. Merci beaucoup, Laurent.
Adorion.
Merci, ça a été rapide, mais c'était intéressant. À tout de suite.
Merci.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Vous connaissez peut-être la députée Annie Genevard, députée des Républicains du Doubs, et elle est également vice-présidente de l'Assemblée nationale. Voici ce qu'elle a dit hier soir. Certaines familles, françaises ou non, au moment des mariages et parfois dans la salle des mariages, dans l'hôtel de ville ou sur la place de l'hôtel de ville, brandissent des drapeaux étrangers, manifestent par des danses ou des spectacles les traditions qui sont les leurs. Moi, je pense que lorsque l'on est marié, dit-elle, dans une mairie française sous l'égide d'un bâtiment public qui est l'emblée emblèmes de la République, il faut se plier au code. Chaque fois que nous avons affaire à ce genre de situation, ça suscite énormément d'émoi dans la population, ça insupporte les gens. Et Éric Dupond-Moretti lui a répondu, moi madame la députée, quand je vois les gens danser, ça me rend heureux. David est avec nous. Bonjour David, vous êtes technico-commercial dans le Jura et vous vouliez intervenir sur ce sujet.
Eh bien, oui, bonjour Pascal. Première chose, je voulais dire que vous aviez une belle cravate. Elle est, oui, elle est très jolie.
Eh bien, c'est gentil.
Non, mais il fallait le dire quand même, il fallait le souligner.
Vous avez raison. Merci.
Non, oui, pour revenir un petit peu à ce fait, alors bon, c'est une dame qui vient du Doubs, qui est juste à côté de chez nous, hein, qui est du Jura, et je rejoins complètement ce qu'elle a dit. Moi, pour l'avoir vécu en live, puisqu'il y a eu un mariage mix dans ma famille, quand vous assistez à ce genre de mariage, vous êtes assez surpris. Alors, suivant les traditions et tout ce qui s'ensuit. Donc, il faut savoir quand même que, dans mon cas, nous, des personnes sont venues chercher la mariée chez nous et ont bloqué littéralement toutes les voies. C'était une route, une nationale. Ils ont bloqué la nationale. Donc, il y a eu un cortège qui est passé. Ils ont bloqué tout le monde. Hein, avec, bon, vous savez, il y a des fois, il y a des gens qui sont un petit peu énervés parce qu'ils ne peuvent pas passer, tout ça. Donc, il y a toujours quand même quelque chose d'insécurité. Et là, nous, on le vivait en live. Donc, on a regardé un petit peu ça de loin. Et j'avoue que là, j'étais, encore une fois, très surpris. Ensuite, il y a eu le défilé dans les rues. Et là, par contre, là, dans les rues de la ville, là, c'est complètement différent. Là, on bloque tout, les carrefours, les quads se mettent, et on passe, et ça klaxonne, et ça provoque. Et bon, vous êtes là, vous suivez avec votre voiture, et vous priez que tout se passe bien. Ensuite, on arrive à la mairie, et là, eh ben, c'est oui, comme le dit la députée, Madame Genevard, eh bien, il y a des drapeaux qui arrivent, il y a des danses, il y a des drapeaux des pays d'origine. Alors,
parce que pour vous, c'est l'apanage simplement d'une ou de communautés.
C'est l'apanage de quand même d'une communauté en particulier qui fait ce genre de tradition. Alors c'est une tradition peut-être de chez eux, hein, ou bien qu'ils
chez
veulent.
Eux, si vous me permettez, de chez eux, c'est, comment dire,
souvent, de leur pays d'origine. De leur pays
voilà,
d'origine.
Parce que voilà. Les gens dont on parle, c'est pour ça que c'est des sujets toujours très difficiles.
Vivent en France, j'en conviens. Voilà. Hein. Après, lorsqu'on vit dans un pays, on essaye d'adopter les traditions du pays, mais pas forcément d'imposer des choses qui peuvent surprendre, et surtout, moi, pourquoi imposer une culture c'est moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est quoi, quand l'équipe de France de football, alors on va pas remuer le couteau dans la plaie, hein, Pascal, je sais que voilà, mais on voit des drapeaux français, puis on voit des drapeaux d'autres pays. Vous voyez, donc là, c'est un petit peu quelque chose qui est un peu similaire. En fait, on impose, on montre qu'on est là, on montre. Alors, on respecte. Moi, voilà, j'ai un mariage mixte dans ma famille. Je ne renie personne. Que les traditions se fassent dans des milieux clos, privés. Alors là, les danses, les drapeaux, tout ce que vous voulez, mais je ne vois aucun.
David, je vais me faire l'avocat du diable sur les drapeaux. Si, par exemple, dans un mariage, la région d'origine, ce que vous appelez le pays d'origine, ça peut être parfois une région d'origine.
Oui.
Donc, parfois, un Corse, il aura un drapeau Corse. Et puis un Breton, il aura un drapeau Breton.
Oui.
Est-ce que c'est une manière de rappeler ses origines pour effectivement des Français qui sont nés sur le sol français, mais qui sont d'origine algérienne, marocaine, que sais-je. Est-ce que c'est le même rapport que celui du Nantais ou du Bastiais qui entretient avec ses origines, en l'occurrence la Corse et la Bretagne, un lien comparable ?
Non, c'est pas comparable. Parce que j'ai envie de dire, la France est un pays avec des départements et des régions.
Oui, mais
l'Algérie n'est pas
parfois,
l'Algérie ou
parfois,
le Maroc ou la Tunisie ou la Pologne ou je ne sais pas qui ou n'importe qui. Les
c'est
Italiens.
Parfois rappeler ses origines.
Oui, mais pourquoi les rappeler?
Mais pourquoi les rappeler? Mais parce que précisément à ce moment un peu historique d'une vie, on a envie de se souvenir. Il y avait ce débat, je trouve, pour les prénoms. Il y a un retour des prénoms aujourd'hui qui rappelle l'origine des uns et des autres. Hein? J'ai souvent cité Lissarassu. Lissarassu, il est français, évidemment, et il s'appelle Bichente. Et lui-même l'a dit, je crois même que quand il est né à l'état civil, je crois qu'on l'a enregistré sous le prénom de Vincent. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que ça a été enregistré sous le prénom de Vincent. C'est en 93 que la loi a changé, qu'on a accepté. Bon, personne ne remettra en cause l'idée que Bichente soit pas français, mais il a un amour, un attachement en même temps à sa région, qu'il signe par son prénom.
Oui, et alors ?
Bah, je vous fais un parallèle. Est-ce que pour ces binationaux dont on parle et ces cultures qui peuvent arriver de anciennes, est-ce qu'il y a ce même rapport ? C'est-à-dire que évidemment il y a un attachement très fort à la France, mais on n'oublie pas d'où on vient, si j'ose dire.
Mais oui, mais la France est un super pays où il y a beaucoup de personnes, beaucoup de nations qui sont mêlées. Mais pourquoi vouloir montrer qu'on vient de quelque part ? En fait, faut pas qu'ils oublient une chose. On est français.
Je suis d'accord, mais c'est affectif, c'est un attachement, c'est ça que je veux vous dire.
Est-ce que c'est vraiment, Pascal, est-ce que c'est vraiment affectif ou c'est vraiment, ou ça peut être provocateur ?
Vous avez raison, c'est pour ça que je dis je fais l'avocat du diable aussi, parce que c'est vrai que parfois, vous avez raison. Moi, je ne fais pas d'angélisme, je sais très bien que parfois, c'est aussi une marque de ne pas vouloir se conforter aux mœurs qui existe ici, et c'est un problème pour le vivre ensemble. Donc, je ne suis pas dupe. Je ne suis pas dupe. Mais c'est très difficile de savoir la différence entre la provocation, pourquoi pas, qui peut exister, et puis l'attachement ou l'affection ou l'affectivité que vous pouvez avoir pour des origines.
Et puis, pour revenir à là, on en revient aussi à M. Dupond-Moretti, hein, qui était peut-être un excellent avocat de son temps. Mais là, faut qu'il arrête la politique, je pense. Là, il y a un moment, dire des bêtises ou faire du déni, faut arrêter. Il arrive un moment,
je suis d'accord avec vous, le monde décode aujourd'hui et effectivement, sa réponse, je partageais votre avis. Mais vous voyez, je vais beaucoup solliciter notre ami Greg Caranoni aujourd'hui. Caranoni, évidemment, c'est italien.
Exactement.
D'origine italienne. Et votre fils, c'est un... Le mot clin d'œil n'est pas adapté d'ailleurs, mais c'est un signe que vous envoyez à la culture italienne puisque Pio...
Exactement.
Pio, c'est un prénom italien.
Ma femme et moi avons respectivement des ancêtres italiens, des membres de la famille italienne. Et c'est une culture et un hommage, une affection qu'on a pour ce pays, un attachement. Et c'est une façon de perpétuer la mémoire de nos ancêtres aussi.
Bon, on va marquer une pause, mais c'est intéressant ce sujet des drapeaux, parce qu'effectivement, on sera avec Cuider en direct du Qatar. Il nous appelle de temps en temps, Cuider, si vous suivez notre émission. À chaque fois, on est étonné parce qu'il nous appelle du Qatar, mais il nous écoute sur Internet. On marque une pause, il est 13h49. Ça fait 15 jours, je crois, qu'on n'a pas écouté la chanson Monaco, mais c'est normal parce qu'il ne fait pas beau.
Il ne fait pas beau, oui.
Donc on a voulu la relancer, mais là, malheureusement, le soleil ne nous a pas aidé cette année. En revanche, la petite playlist, elle continue. Pourquoi pas ? Une playlist de mariage, puisqu'on parle de mariage. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Madame, Monsieur, bonsoir.
Le retour de l'imitation. Ça nous manquait, hein.
On est sur les drapeaux, les jours de mariage. On était avec David, on va être avec Fabrice, qui est policier, et on va être avec Cuider, tout d'abord, je vous l'annonçais, qui est en direct du Qatar. Bonjour, Cuider.
Bonjour, mon cher Pascal. Bonjour à tous les auditeurs d'RTL, la meilleure station du monde.
J'imagine, mais il doit faire une chaleur au Qatar en ce moment. On est en plein été.
Ça dépend. Dans mon bureau, il fait 20 degrés. Dehors, je pense qu'il doit faire les 40.
Ah oui, effectivement.
Ouais. Ouais. Mais on ne les sent pas. Tout est fait pour que...
Oui.
C'est comme le Canada. Beaucoup de gens disent au Canada, il fait froid. Mais le pays est tellement équipé, tellement préparé et aménagé pour vivre dans ces conditions-là qu'on ne le sent pas, le froid. Parfois, on sent plus le froid à Paris qu'à Montréal. Tellement c'est... Et à Doha, pareil. Moi, je sens plus la chaleur à Paris quand il fait chaud à Paris qu'ici, parce que tout est climatisé, des malls, des magasins, des parkings. Donc on ne la sent pas vraiment dans la vie de tous les jours.
Bah non, mais c'est parce qu'effectivement, le pays s'est adapté. Alors parlez-nous de ces manifestations, ces fêtes au moment des mariages et qui illustre une, parfois des cultures, des mœurs différentes que nos mœurs traditionnelles et qui peut poser parfois un problème pour le vivre ensemble.
Je dois commencer par dire que je suis pas français, donc je m'excuse et je m'autorise à parler de ce sujet-là, mais j'adore la France. Je suis un amoureux de la France. Ma sœur est mariée à un Breton. Je suis parti au mariage, j'étais à la mairie. C'est vrai qu'il n'y avait pas de drapeau, mais je pense que qu'il ne faut pas compliquer les choses. Notre ami David, qui m'a précédé, parlait de département. L'Algérie était département français. Donc, est-ce que les Algériens seuls, étant issus d'un département français, peuvent brandir les drapeaux? Je ne sais pas. Moi, pour moi, les drapeaux qui sont dans une mairie, c'est la preuve qu'il y a une mixité, que la France est un pays c'est de son histoire. La France est un empire. Donc, dans les grands empires, on trouve ces mixités, on trouve ces cultures différentes. C'est pas un petit pays dont on ne connaît même pas la culture. C'est un pays magnifique. Pour le reste, le code de la route, moi, je pense. Ben, on applique le code de la route. Il y a des lois. Tu bloques la route, il y a la police, elle fait son travail. Le tapage nocturne, pareil. Quelle que soit ta communauté, quelle que soit ta musique, si c'est du tapage nocturne, ben c'est interdit. Et moi, j'aime la France des libertés, j'aime la France du respect des autres. Après, il est intolérable, bien sûr, qu'on touche au symbole d'un pays. On ne rentre pas dans une mairie, on enlève le drapeau français, on met le drapeau d'origine. C'est interdit, ça. Mais on peut rentrer avec le drapeau d'origine, c'est pas grave, parce que c'est un mariage mixte, de toute façon. Voilà.
Écoutez, c'est votre position et c'est pour ça que c'est intéressant de l'écouter. Fabrice est là, vous allez pouvoir, pourquoi pas, échanger avec lui. Il est policier et lui, il a dû gérer parfois ce genre d'événement. Fabrice, concrètement, comment ça se passe? Bonjour.
Dans un premier temps, bonjour Pascal Pro. Et en entendant votre auditeur actuellement en antenne et en direct avec moi, bien sûr que
c'est plus net du Qatar que je ne sais pas d'où vous appelez, Fabrice, mais c'est moins net de chez vous.
Ah, c'est peut-être moins net, mais d'une manière comme d'une autre, je voulais vous dire que j'étais d'accord avec votre auditeur qui est actuellement en direct, mais sur le terrain, sans stigmatisation, sans amalgame, je pense que certains malheureusement dans leur religion ou dans leur pratique entre guillemets religieuse de mariage débordent sérieusement et nous on n'est pas bien quand on est policier sur le terrain on assiste.
Mais c'est pas vrai de tous les mariages, ça, quoi, en plus exactement, c'est pas vrai de certains mariages de toute communauté?
Non, certaines communautés débordent et savent très bien qu'ils débordent.
Et c'est fréquent?
Oui, c'est très fréquent. Vous avez des tunnels bloqués, hein. Vous savez, même moi, sur la région Savoie, même ici, on a affaire à une communauté qui bloque des... c'est l'Adrien derrière qui intervient, qui doit faire le nécessaire. Moi, je trouve pas ça normal, quoi.
Non, ça, c'est pas normal. Le trouble à l'ordre public, c'est jamais normal.
Voilà, c'est le trouble à l'ordre public. Et vous savez très bien que quand on est policier, le trouble à l'ordre public, c'est le rétablir avant tout. Alors, de la meilleure façon qui soit, et en essayant de communiquer, de pouvoir parler. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup de personnes qui le prennent de haut ce jour-là et que c'est malheureux. Alors, on relève les infractions à la volée, parce qu'à la volée, hein, n'allez pas, entre guillemets, l'aller verbaliser sur place, parce que là, ça va partir dans les reportages qu'on voit tous les jours sur différentes chaînes, où il va y avoir une certaine rébellion et derrière, donc on relève les plaques et puis on va aller chercher un petit peu comme les refus d'obtempérer, un petit peu plus loin et la justice s'en occupe ou pas.
Merci, hein. Fabrice, de ce témoignage. C'est vrai que c'est pas... Faut respecter évidemment la loi et le trouble à l'ordre public doit être réprimé. Effectivement, c'est ça le vivre ensemble. La délicatesse, de ne pas penser qu'on est seul au monde, d'imaginer que ce que vous faites peut ennuyer les autres. C'est le principe de la vie en communauté, en collectivité. Nous allons marquer une pause, le flash dans une seconde.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
Il est 14h. Le flash avec Stéphane Genest.
Le forcené retranché chez lui à Rieux-Volvestre en Haute-Garonne a été interpellé par les hommes du GIGN. Il a blessé un homme d'une soixantaine d'années après avoir tiré avec une arme à feu depuis son balcon. L'homme de 80 ans était un militaire à la retraite. Le ministère de la Justice place Vendôme à Paris, toujours théâtre d'une perquisition. Perquisition dans le cadre d'une enquête visant Éric Dupond-Moretti pour de possibles conflits d'intérêts entre son poste de ministre et ses anciennes fonctions d'avocat. Une enquête avait été ouverte pour prise illégale d'intérêt à la Cour de justice de la République en janvier dernier. Allez, on prend la direction de la Touraine pour suivre la grande boucle.
RTL Tour de France 2021.
Et sixième étape du Tour de France entre Tours et Châteauroux. Sur la moto RTL, on retrouve tout de suite Morad Djabari. Et Morad, rebondissement dans l'affaire de la jeune femme à la pancarte, cette jeune femme qui avait fait tomber les coureurs samedi, puisque l'organisation a retiré sa plainte tout à l'heure. Information que vous avez d'ailleurs précisée, le directeur du Tour. Hein.
Effectivement, Christian Prudhomme, que vous entendrez sûrement de vive voix ce soir sur notre antenne. Le patron du Tour qui a décidé de retirer cette plainte pour mettre fin à, je cite, une frénésie médiatique, une histoire de pancarte qui prenait des dimensions démesurées. Il ne s'agissait pas d'accabler cette jeune femme qui a fait une très très grosse bêtise. Le Tour, le cyclisme est un sport dangereux où il y a du monde sur le bord de la route et où il y a des règles à respecter. Voilà. Côté course, aujourd'hui, une courte étape, une étape de transition comme on dit, 160 km entre Tours et Châteauroux, promis aux sprinteurs sous un soleil radieux entre les vignes, les champs de tournesol et les châteaux de la Loire, Amboise, Chenonceau. Le départ fictif a été donné il y a maintenant 5 minutes. Prochain point sur la course dans une demi-heure.
Merci Morad. Et après cette étape, vous retrouvez justement avec Laurent Jalabert et Christophe Paco le Club Jalabert à 18h30 sur RTL. Dans le reste de l'actualité, la crainte de l'Organisation Mondiale de la Santé. L'OMS estime qu'une nouvelle vague de contamination au Covid-19 peut déferler sur l'Europe. Pour preuve, l'organisme estime que les villes hôtes des derniers matchs de l'Euro de football devaient assurer un meilleur suivi de la circulation des spectateurs, y compris avant leur arrivée et après leur départ du stade. La météo cet après-midi, ce sera mieux qu'hier. Le soleil revient petit à petit, vous l'avez sûrement déjà constaté ce matin. Néanmoins, prévoyez quelques averses sur la Normandie et la Bourgogne. Du côté des températures, elles augmentent petit à petit entre 17 et 29 degrés. Les courses aujourd'hui, elles ont lieu en nocturne. Ce sera à Longchamp. Attention, là, ce Simply Striking est non partant. Les pronostics de Dominique Cordier, le 7, le 4, le 15, le 3, le 2, le 10, le 13. Et sa dernière minute, c'est le 2. Oxalis. 14h et bientôt 4 minutes. Et on vous retrouve tout de suite, Pascal Pro.
Merci Stéphane.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Demandez le programme avec Laurent Tessier.
Nous vous attendons dès maintenant au standard. Faut-il rendre obligatoire la vaccination des soignants? Le Premier ministre Jean Castex va lancer dans les jours qui viennent une consultation sur le sujet. Le professeur Didier Pittet, infectiologue à Genève, était l'invité d'Alba Ventura ce matin sur RTL.
Je crois que les soignants se doivent, il est question de respect, de civisme, de solidarité, se doivent d'être vaccinés. Et je pense qu'on peut et qu'on doit s'aider à les convaincre. Maintenant, si malheureusement on n'arrive pas à les convaincre, il faudra à un moment donné demander, exiger cette vaccination ou alors des tests peut-être 3 fois par semaine, une très grosse contrainte. Mickey.
Vous êtes médecin, infirmier, aide-soignant, êtes-vous vacciné? Une obligation serait-elle contre-productive? Pourrait-elle vous faire quitter le milieu médical? 3210 3210.
Merci Laurent, on va donc parler de ce sujet avec Aurélie qui est infirmière. Au-delà d'ailleurs de la vaccination obligatoire pour les soignants, il y a une petite musique que je commence à entendre. Vaccination obligatoire pour les 25-59 ans, qui est une tranche qui peut être touchée. Bonjour Aurélie.
Bonjour Pascal.
Vous êtes infirmière.
Oui, tout à fait. Je suis infirmière et vaccinée.
Vaccinée doublement?
Doublement, à plus que 15 jours de la deuxième dose. Bon. Donc,
obligatoire ou pas, selon vous, ce vaccin pour les soignants?
Eh bien, il y a quelques temps, j'avais participé à votre émission et je n'étais pas favorable à une obligation comptant sur la bien-pensance de mes collègues. Mais visiblement, celle-ci me donne tort et je suis de l'avis du professeur Pittet. Il va falloir certainement rendre obligatoire cette vaccination pour les soignants si on veut échapper à une quatrième vague dans les milieux intra-hospitaliers en automne.
Comment vous l'expliquez?
Une défiance. On re- remarque, alors les chiffres sont plutôt donnés par rapport aux soignants travaillant dans les EHPAD. Est-ce qu'il y a une méconnaissance et que cette maladie est plutôt associée au grand âge ? Ce qui est faux, puisque quand on va dans les unités Covid des CHU, on voit que malheureusement, l'âge des patients pris en charge avec de gros troubles s'affaiblit. On est plus de l'ordre de 50, 40 ans. Je ne sais pas.
Vous avez des témoignages, voilà. Par exemple, vous avez des infirmières que vous connaissez qui vous disent « moi, j'ai pas envie de me faire vacciner ».
Alors, non, pas directement, non. Mais des fois, on entend, notamment sur votre antenne, Non, directement, non. Nous, on va au domicile des patients et c'est vrai que, par contre, là, on a vraiment conscience qu'il faut pas qu'on soit vecteur du vaccin, parce qu'en fait c'est ça le point de vue qu'il faut avoir. C'est pas pour se protéger soi, bien que, mais c'est surtout pour éviter d'être vecteur du
virus. Bien sûr.
C'est ça qu'il faut essayer d'inculquer et de. Mais après, ça fait partie de la bonne citoyenneté. Et si on met ça en comparaison avec les chiffres de l'abstention, c'est voilà.
Vous êtes en libéral,
Élodie. Témoigne d'une. Non, pas vraiment. J'interviens au domicile, mais pas en étant en libéral.
D'accord. Voilà,
mais oui.
Bah merci de ce témoignage, puisque c'est une des questions du jour, bien évidemment.
Mais faites-vous vacciner, soignant ou pas soignant, faites-vous vacciner.
Alors après, chacun, je suis d'accord avec vous, mais bon, c'est la liberté de chacun.
Ah, mais c'est la liberté, mais oui.
De pas, si quelqu'un ne veut pas se faire vacciner, qu'il a 16 ans, 18 ans, 25 ans, c'est aussi son droit, ou sa possibilité en tout cas.
Pour le moment.
Pour le moment, comme vous dites, à tout de suite.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Faut-il rendre la vaccination obligatoire pour les soignants ? Nous sommes avec Anne, qui est également infirmière, qui habite dans l'Aveyron. Bonjour Anne.
Oui, bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Quel est votre sentiment ?
Mais écoutez, mon sentiment, c'est qu'à partir du moment où le personnel soignant ne veut pas adhérer à la vaccination. Il est vrai qu'aujourd'hui, on est sans cas de conscience dans la mesure où je pense qu'ils sont les premiers exposés, les premiers en ligne, les premiers au front. Mais ce ne sont pas les seuls. Il y a aussi les policiers, il y a aussi les pompiers, il y a aussi énormément de professions qui sont de toute façon au front et face au public. Et cette vaccination, elle devrait de même se faire. Maintenant, puisqu'ils n'y adhèrent pas, puisqu'ils ne veulent pas, ben, c'est dommage, c'est liberticide, mais on n'a pas d'autre choix que de l'imposer.
Mais j'entendais ce matin dans la matinale de Julien Cellier, il y a déjà un déficit de soignants. Donc si ces soignants refusent de se faire vacciner, par exemple s'ils quittent la profession, comment vous faites ?
Il faudrait être sûr qu'ils quittent la profession, ils quitteront de toute façon. Le déficit de soignants, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on le connaît, il a toujours existé. En 80, on était déjà en déficit, en 1980, quand j'ai commencé dans cette profession, on était déjà en déficit de soignants. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai arrêté de faire, d'avoir cette fonction et j'ai fait autre chose, parce que je ne supportais plus de vivre ce déficit, d'enchaîner de gardes d'affilée parce qu'il n'y avait pas de remplaçants, où on s'épuise complètement et puis on risque de faire des bêtises et des erreurs et bon, c'est pas acceptable. Et si vous voulez, le déficit de soignants, c'est pas d'aujourd'hui qu'il existe. Donc pourquoi
Il y en a
peut-être qui quitteront la profession, mais ils quitteront pas la profession parce qu'on les oblige à se vacciner.
Ah bah l'autre jour, on a eu une infirmière, c'est ce qu'elle disait.
Oui.
Elle disait, si on m'oblige, moi j'arrête. Je me souviens très bien de son témoignage.
Oui. Mais le fond du problème, il est qu'effectivement, on nous propose un vaccin, c'est-à-dire plusieurs vaccins. Ces vaccins-là n'ont pas bénéficié de toutes les études nécessaires avant leur mise sur le marché, puisqu'ils ont été produits et fabriqués en catastrophe face à la pandémie. Et je comprends aussi la crainte du personnel soignant peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dans 4 ou 5 ans, face à de nouvelles maladies ou autres qui seraient malheureusement en corrélation avec ces vaccins. On ne sait pas. On est toujours dans l'inconnu, mais aujourd'hui, on n'a qu'un mot, c'est se protéger et protéger les autres. Donc, si on doit se protéger et protéger les autres, vaccinons-nous. C'est tout.
Bah merci. Merci de ce témoignage sans ambiguïté. Ce qui serait intéressant, peut-être, c'est d'avoir un témoignage contraire, et notamment d'une soignante qui refuse de se faire vacciner et qui nous explique pourquoi. À 14h13, on marque une pause.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Toujours ce sujet de la vaccination obligatoire pour les soignants. Nous sommes avec Maxime. Bonjour Maxime.
Bonjour Pascal.
Et vous vouliez peut-être donner un point de vue différent.
Je ne sais pas s'il va être très différent maintenant. Moi, je suis contre la vaccination obligatoire. Je suis même contre la vaccination pour les jeunes, on va dire, en dessous de 30 ans. Mmh. Pour moi, c'est juste inadmissible ce qui est en train de se passer. Je ne suis pas dans le corps médical, mais je travaille avec le corps médical. Quand est très proche, et que ce soit des grands professeurs, et que même ceux qui disent qu'ils sont pour la vaccination, quand on commence à leur poser des questions sur le tétanos, sur ce que le tétanos peut faire à une femme pendant une grossesse qui empêche le fœtus de s'accrocher, et que ce n'est pas des bêtises parce qu'elle s'est connue, et qu'on ne prévienne pas, qu'on n'en parle pas, que les infirmières, on les force.
Non, mais moi, ça m'ennuie de rentrer là-dedans, parce que c'est des conversations qui ne sont pas étayées, prouvées.
Mais vous
parlé avec des professeurs de médecine qui vous ont dit qu'il ne fallait pas se faire vacciner contre le tétanos.
Qui m'ont dit que clairement le vaccin du tétanos, on s'est rendu compte que le vaccin du tétanos rendait difficile le fait que le fœtus puisse s'accrocher à la poche.
Mais voilà. Mais je comprends pas, tout le monde est vacciné contre le tétanos.
Non, oui, mais alors il y a le vaccin qu'on va nous rendre obligatoire quand on a 8 ans, et il y a les rappels qu'on va devoir faire. Vous savez, quand vous rentrez dans le milieu de l'industrie, quand vous rentrez dans...
Il faudrait pas faire ces rappels. Enfin bref, là fermons la parenthèse parce que c'est pas le tétanos qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le vaccin, voilà. Bon, vous n'êtes pas soignant. Vous êtes vacciné, par exemple?
Non, il est hors de question.
Vous êtes anti. Vous n'avez pas confiance.
Non, je ne suis pas anti-vaccin.
Non. J'ai pas dit ça d'ailleurs. Je me suis repris immédiatement. Exactement. Mais vous n'avez pas confiance.
Exactement. C'est vraiment. Oui.
Et pourquoi vous n'avez pas confiance?
Parce qu'il est à la phase 3 à l'heure actuelle. C'est le seul vaccin au monde, Pascal, où si demain on se rend compte qu'on a une maladie à cause de ce vaccin, on ne pourra pas se retourner contre les labos. C'est le seul vaccin au monde sur lequel on a autorisé ça. C'est le seul vaccin au monde qui est diffusé, qui est à l'heure actuelle à la phase 3 de test. C'est inadmissible.
Mais en même temps, par exemple, aujourd'hui, il y a plus de 200 millions de gens qui sont vaccinés. Il y a effectivement des soucis, comme il y en a sur tous les autres vaccins, mais convenez que ça marche, qu'il est efficace.
Bien sûr, sans autre. Moi, je me demande juste dans 10 ans, qu'est-ce qu'on va devenir? Si demain, dans 10 ans, on se retrouve avec des tumeurs, si on se retrouve en chimio aussi, qui va payer ça? Les mêmes labos à qui on a payé les vaccins, c'est eux qui vont nous payer.
Mais là, par exemple, ces médecins qui vous disent que ce n'est pas possible ce que vous dites. Que ce n'est pas possible que le vaccin, il se dilue dans l'organisme, etc. Que précisément le cas que vous dites n'est pas possible scientifiquement. Moi, c'est ce qu'ils me disent quand je les interroge. Vous ne les croyez pas?
Je leur demanderai juste quelles écoles ils sortent. Vous savez, moi, j'ai plein de choses. Je travaille dans plein de sujets. Ça n'a rien à voir, je vous l'accorde, avec des enfants autistes. Et je rencontre des gens où on me dit l'autisme, ça se soigne pas. Et je connais une personne à Genève qui soigne l'autisme, vous voyez. Et dans le monde entier, on vous dit que l'autisme, ça ne se soigne pas. Parce qu'on vend des médicaments pour pouvoir...
Ah, vous pensez que l'autisme se soigne, effectivement. Et vous pensez donc, là on est vraiment dans une psychologie, qu'on dit que l'autisme ne se soigne pas pour vendre des médicaments, c'est ça? Voilà, donc c'est vraiment une analyse complotiste pour le coup. Là, c'est... Mais vous avez le droit de l'être, hein. Parce qu'il y a aussi des complots qui ont existé dans l'histoire, hein.
Non mais Pascal, vous savez, c'est passé sur votre chaîne, vous vous rappelez l'émission qui est passée sur votre groupe qui est M6, où on aide les gens à investir, on investit pour eux dans leurs bonnes idées. Et il y a un monsieur qui a clairement dit qu'il avait trouvé une solution pour le cancer des enfants et qui était pour qu'il fallait donner de la vitamine aux enfants pour éviter certains cancers. Et quand il est parti voir un grand professeur, ce grand professeur lui a tout simplement répondu: pourquoi voulez-vous que je donne quelque chose pour lequel je vends des médicaments?
Bon, et bah écoutez Maxime, cette émission est ouverte à tout le monde, bien évidemment. Je ne peux pas cautionner vous dites. Franchement, je ne peux pas cautionner. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, mais je ne peux pas cautionner ce que vous dites. Voilà.
Je le comprends. Par contre, je vous demanderais juste d'être curieux et d'aller voir ce que Madame Elke Harold, donc c'est une dame qui est à Genève, fait sur les enfants autistes.
Bon, bah écoutez, je note. Comment ça s'écrit? Parce que j'aime bien vérifier tout. Elke, E-L-K-E.
Alors, E-E-L-K-E.
Oui.
Harold, A-R-L-O-D.
A-R-L-O-D. Bah écoutez, je vais aller voir. Je vais aller voir parce que moi, j'aime bien tout vérifier. Et merci. Et puis, je n'ai pas de préjugés. En tout cas, j'essaye de ne pas en avoir. 14h21. 14h21, ça va être c'est l'heure du débrief. Et en même temps que vous parlez, Maxime, vous faites réagir plein de gens, évidemment. Donc je salue Valérie Expert qui nous écoute et qui m'envoie des petits textos d'amitié. Laurent, c'est le débrief ?
Bah c'est l'heure.
C'est l'heure.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Le congé paternité de 28 jours, dont une semaine obligatoire, entre en vigueur à partir d'aujourd'hui. Qu'en pensent les papas ? Eh ben Nicolas, un avis bien tranché.
Mon propos, c'est de dire aucun intérêt. D'abord, chacun fait ce qu'il veut, qu'on soit bien d'accord. La semaine obligatoire, ça, c'est pas normal. Quel intérêt de s'en retrouver à deux à la maison ?
Vous dites aucun. Vous êtes aucun. Drôle, Nicolas.
Nathalie est assistante maternelle et elle a tenu aussi à prendre la parole.
En tant que femme, je me dis, ça y est, les hommes vont connaître quelque chose. C'est quel va être le point de vue des employeurs et vont-ils être tous très souples face à leur employé qui va prendre ses 28 jours ?
Un congé paternité de 28 jours, qu'en pense Paul, 70 ans ?
Honnêtement, c'est pas de mon époque, j'aurais pas pris un congé de paternité, honnêtement.
Et sur cette question, est-ce une avancée suffisante ? Un avis, Pascal ?
Je pense que c'est générationnel.
Ou alors on peut faire encore plus simple.
La règle, voilà. Comme toujours, c'est qu'il n'y a pas de règle.
Mais oui, on sent que c'est la fin de saison, que les vacances approchent, le cerveau a du mal à fonctionner, voilà tout ce qu'il ne faut pas faire avec vos enfants, signez l'équipe des auditeurs en la parole. Donner le biberon à bébé, donc honnêtement...
Le biberon imbibé. Si vous donnez le biberon imbibé, évidemment, c'est ennuyeux. Je sais pas, le biberon imbibé. Il est
temps de s'habiller. Greg Caradoni, une autre idée à ne pas respecter ?
C'est très simple de faire des brocolis. Oui. Non, mais pour les enfants, en plus, si vous voulez, vous les faites bouillir. Enfin, après, vous
faites bouillir vos enfants.
Ah, exactement. J'en ai 40.
Ah, c'est pas recommandé.
Et là, Pascal, ne loupe pas une seule seconde.
On aura quand même appris dans cette première demi-heure que Greg Caradoni fait bouillir son fils Pio et que vous, Laurent Tessier, vous donnez des biberons imbibés à votre fille Sophia.
Vous
c'est
avez
bien.
Mal compris.
Non, mais c'est bien.
Non, je rappelle que tout ceci est bien évidemment faux. Sinon, Adrien va être papa début décembre. Allez. Hey, lâchez-nous un peu le prénom.
Donnez-nous des pistes, parce que c'est le jeu des prénoms.
Anna, j'aime bien Elena,
oui.
Aline. Voilà, Gabriel pour une fille aussi. J'ai des prénoms à elle, c'est des prénoms que j'aime beaucoup.
Mais Anna, ce prénom vous inspire, ami Pascal. C'est l'heure alors de... Papa chanteur, maman douceur, pleure pas. Allez, poussez la chansonnette.
Elle s'appelait Anna, elle n'avait pas 10 ans.
Ouais, sauf que ce n'est pas exactement ça. L'arbitre Thomas Soto est sorti de son bureau juste en face du studio, faute impardonnable sur une chanson de Jean-Jacques Goldman.
Pascal Pro, c'est la cellule de contrôle.
Elle s'appelait Sarah.
Elle s'appelait Sarah, évidemment.
Évidemment
qu'elle
elle
avait pas
8
ans, sa vie c'était douceur, rêve et nuage blanc, mais d'autres gens l'avaient décidé autrement.
Ah bah, vous pouvez le chanter, Thomas ?
Non.
Ah, merci, monsieur l'arbitre Thomas Soto, mais allez-y quand même, chantez-nous la petite chanson.
La pause ?
Elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas 8 ans. Sa vie c'était douceur, rêve et nuage blanc. Mais d'autres gens en avaient décidé autrement.
J'ai pris un peu trop grave, hein.
Non, vous êtes. De toute façon, vous êtes naturellement un peu grave.
D'autres gens en avaient décidé autrement.
Un dernier mot, David, avant de se quitter.
Première chose, je voulais dire que vous aviez une belle cravate. Elle est.
Ah bon
oui, elle est très jolie.
Et bien, c'est gentil.
Merci pour le compliment. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson de tous les jeunes papas.
Tu es mon millésime, ma plus belle année.
Ce bonheur en prime que tu m'as donné.
Vous chantez aussi mal que Pascal.
Vous savez que vous me vexez beaucoup quand vous dites ça.
C'était pour moi.
Eh oui, un peu pour moi.
Bah, un peu, oui.
Il est 14h25, j'ai l'impression que Flavie Flamand, tout de jaune vêtue.
Qui est notre millésime.
Notre plus belle année est en train d'entrer dans le studio.
1992, non, j'imagine.
Qui, Flavie?
Oui. Flavie, 1992. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. 1900. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur...